Encore un texte violent de la Bible. Un texte d'évangile qui m'a fait penser au poème de Prévert que nous avons entendu. Cet amour, si violent, si tendre, si vrai, si beau. Eh bien oui, il va falloir s'y faire. Il y a des textes violents dans le Nouveau Testament. Et nous y sommes régulièrement confrontés. Et pourtant, si le Dieu de Jésus-Christ est bien comme il nous l'a annoncé, alors nous n'avons rien à craindre. Il ne nous veut pas de mal. Bien au contraire. Passé la première réaction de rejet de ma part, je me suis mis à l'étude du texte, à la méditation aussi. Et je tente aujourd'hui une interprétation. C'est la mienne, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir d'autres, et même les partager en différentes occasions. À ce propos, je vous informe de la reprise des partages bibliques œcuméniques des troisièmes vendredis du mois, autour des textes du dimanche suivant. La première rencontre de cette année aura lieu le 19 octobre, c'est un vendredi, donc à 20h dans la salle du haut. En ce qui concerne l'interprétation des textes bibliques, j'ai lu un propos de Marie Balmary qui m'a bien plu. Je ne viens pas vers les Écritures pour trouver la vérité, mais pour y découvrir une vérité neuve, comme on vient chercher un nouveau fruit chaque automne au pommier du jardin. Et elle ajoute, en direction d'exégètes un peu trop zélés, sans disséquer le pommier. Voici quelques fruits que j'ai trouvés sur le pommier de Marc. Un fruit de tendresse pour les petits de ce monde. Ceux qui n'ont pas bénéficié des richesses de la vie. Ceux qui sont prêts à suivre n'importe quel guérisseur. Ceux qui pleurent d'avoir été blessés, piétinés, niés, oubliés. Ceux qui sont sans défense devant les puissants. Ce qui est savoureux dans le texte de Marc, c'est que juste avant, les disciples discutaient de qui est le plus grand. Est-ce que nous, qui nous croyons grands, quand personne ne nous regarde, nous pouvons devenir plus petits ? Bénéficier de raccourcissements, en quelque sorte. Et c'est le deuxième fruit que j'ai trouvé sur l'arbre. Un chemin de guérison. Un peu radical, certes. Coupe ta main, coupe ton pied, arrache ton œil. Mais assez parlant. Ce texte, en fait, nous parle comme une parabole. Il ne s'agit pas de se massacrer pour être vivant. Il ne s'agit pas non plus d'entreprise d'épuration qui trouverait son sens en elle-même. Ah, on se sent plus propre, plus léger, plus pur avec une main en moins. En relisant plus doucement ce texte très chargé, je vois que l'auteur passe directement des petits qu'il ne faut pas faire tomber, à l'occasion de chute que pourrait constituer ta main, ton pied, ton œil. Disons que l'auteur ne s'embarrasse pas de transitions superflues. Mais qu'est-ce qui, dans ma main, mon pied, mon œil, pourrait me faire tomber ? Je risque encore une interprétation. Peut-être que c'est le fait de me considérer comme un tout, entier, fermé sur lui-même, qui pourrait me détourner du vrai sens de la vie. Peut-être que c'est un intérêt excessif pour ma personne, mon intégrité physique et psychique, qui m'empêche de rejoindre la communauté des ébréchés. Parce qu'en fait, nous sommes tous un peu ébréchés. Si ta main, ton pied, ton œil est occasion de chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer manchot, boiteux, borgne dans la vraie vie que d'aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Il s'agit d'aller vers la vie en laissant tomber ce qui nous en empêche. À chacun ses empêchements. J'ai une petite idée sur les miens, sur les répétitions pesantes de situations sans avenir, sur les regrets stériles d'occasions ratées, sur des jugements de ma part idiots et sans tendresse. Une autre image m'est venue à propos de ce texte, l'image d'un sevrage, c'est-à-dire d'une séparation pour aller vers plus de vie. Accepter la séparation du ventre maternel et être lancé, avec amour, mais quand même, dans la vie extérieure. Accepter de passer du sein ou du biberon à une nourriture solide. Accepter de quitter le cocon familial pour une vie plus aventureuse. Accepter que toute relation laisse du creux, laisse à désirer. Accepter que notre Dieu ne nous enveloppe pas d'une présence constante et rassurante. Je connais un artiste de cirque, acrobate, sur fil tendu, qui voulait peut-être atteindre les étoiles, mais qui est tombé. Lui a perdu l'usage de ses deux jambes. Plus tard, plus loin, sur un autre fil, il est remonté, désarmé, estropié, mais tellement vivant au milieu de ses amis qui lui tenaient la main avec tendresse. Peut-être que le sens de la vie est d'être délesté de toutes nos possessions, de nos capacités physiques et intellectuelles. Eh bien, disons que j'ai encore du mal à accepter ce dernier sevrage. Est-ce qu'il ne resterait pas une petite pomme sur l'arbre ? Oui, c'est celle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui parle de la vraie vie, commencée maintenant, et qui n'a pas fini de nous surprendre. Dans le texte de Marc, et selon les traductions, il s'agit du royaume de Dieu, de la vraie vie, ou même de la vie, simple, sans majuscule. La vie maintenant, pas la vie en récompense d'un parcours vertueux, ni la vie plus tard, au bout d'un long chemin de souffrance. Non, la vie maintenant, pour vivre maintenant, tout simplement. Jésus, en pédagogue, en maître de la loi, en éveilleur de désir, en digne fils de son Père, nous a révélé quelques petites choses sur ce royaume. Pas assez à notre goût de goinfre, mais suffisamment pour nous donner l'élan vital qui nous aide à accepter de n'être pas le tout de l'homme et de l'univers. Qui nous aide à accepter que nous avons besoin de nos frères et sœurs humains. Qui nous aide à accepter de ne pas tout comprendre de la vie, mais de la recevoir en confiance. Amen. Thank you. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2208 à la page 264, comme un souffle fragile.